France Inter.
La chronique écho avec notre partenaire premium, Alexandra Ben Saïd. Bonjour gentil. Alexandra.
Bonjour tout le monde.
Ce matin, Alexandra, vous regardez du côté de la Chine.
Oui, parce qu'Ali, il y a un débat chez les économistes sur le peak China. C'est comme le peak oil, hein, vous vous souvenez, pour le pétrole. Est-ce que nous sommes en train d'assister au moment où la Chine a atteint son apogée après un rattrapage économique échevelé ces 20 dernières années? Est-elle ou pas déjà passée de l'autre côté de ce sommet? C'est pas un petit sujet pour le reste de la planète. La deuxième économie mondiale ralentit, c'est un fait. Elle n'est plus depuis plusieurs années à 10% de croissance. L'année dernière, elle a affiché un peu plus de 5%, 5,2. Un chiffre toujours à prendre avec précaution, mais il est en ligne avec les prévisions officielles. Parce que oui, chaque année, à l'ouverture de la session annuelle du Parlement, le Premier ministre chinois annonce un objectif de croissance. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer mardi prochain. Des milliers d'hommes et de femmes politiques venus de toutes les provinces chinoises vont converger vers Pékin pour... bon, allez, disons voter, des textes préapprouvés par le Parti communiste au pouvoir, et pour découvrir donc l'objectif de croissance 2024 que dévoilera M. Li Qiang. Je vais un petit peu spoiler, le FMI a déjà donné ses prévisions pour cette année, ça sera 4,6% de croissance en Chine, ça continuera à baisser jusqu'à 3,5% en 2028. On peut aussi rappeler qu'en décembre dernier, l'agence Moody's a dégradé sa note sur les perspectives économiques chinoises pour la première fois en 5 ans. Et puis il y a quelques semaines, l'ancien secrétaire d'État au Trésor américain Larry Summers était à Shanghai. Il ne s'est pas privé de dire qu'il pensait que la stagnation séculaire était passée de chez nous, l'Occident, à la Chine.
Et avec la photo que vous nous faites là, Alexandra, le débat sur le peak China a l'air plié.
Vous avez raison Marion, et pourtant il existe encore ce débat, parce que la photo elle est plus nuancée. Côté ombre, on a, oui, deux moteurs touchés, l'immobilier et les exportations. Il y a aussi le sujet tabou en Chine, hein. Les prix baissent, même si le porte-parole de l'Institut statistique affirme que la déflation, ça n'existe pas, et encore mieux, ça n'existera pas dans le pays. Mais il ne faut pas oublier non plus le vieillissement de la population, et puis le chômage des jeunes, à qui le président Xi a conseillé d'apprendre à manger de l'amertume.
Ah oui.
Mais oui, mais est-ce parce que la Chine n'a pas bien rebondi après le Covid qu'elle ne saura pas le faire désormais? Côté lumière, cette fois, les Chinois, ils forment près d'1,5 million d'ingénieurs par an. La Chine, elle est très forte en brevets. Les voitures électriques, les panneaux solaires chinois déferlent sur la planète, qui l'ignore? Et puis, il n'est pas impossible que, malgré les sanctions américaines, les Chinois aient acquis une technologie satisfaisante sur les semi-conducteurs, les puces. Alors, rebondira ou rebondira pas, un des facteurs, ce sera l'attitude de Pékin. Ce pouvoir autoritaire peut être une force pour le développement économique ou une entrave. Regardez comment il a maté ses propres géants de la tech. En tout cas, c'est un pays qui se fixe des objectifs. Et on dit que la Chine espère éclipser les États-Unis en tant que première puissance économique mondiale en 2049. C'est l'année du centenaire de la République populaire créée par Mao. Aujourd'hui, les analyses de Bloomberg nous disent qu'elle va probablement manquer le coche. Mais prudence, nous sommes en 2024, il reste un quart de siècle à l'empire millénaire.
Merci Alexandra, on vous retrouve juste après le journal de 9h pour On n'arrête pas l'écho avec...
avec Véronique Bédague, la PDG du promoteur Nexity, c'est le leader du secteur en France. Et il vient d'annoncer un plan social.